de lancer ces états généraux de la critique de projets d'espace public.
La critique et les médias. Discussion entre Frédéric Pouzin, Ursula Wieser, Karen Chevalier. Huitième épisode des états généraux de la critique du projet d'espace public, réunis les 21 et 22 novembre 2023 à l'École de la nature et du paysage à Blois. Un podcast présenté par le réseau Critique et Projet de paysage.
Bien, je vous propose qu'on commence parce qu'il y a déjà pas mal de retard. Donc bonjour à tous. Pour terminer cette matinée, nous vous proposons maintenant une table ronde sur la critique et les médias autour de trois interventions. Donc Frédéric Pouzin, qui est directeur de recherche au CNRS et à l'UMR Hauser, qui va nous présenter les cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, dont il a été rédacteur en chef. Et il discutera de la place ou non des articles de critique dans cette revue. Ursula Wieser, qui est paysagiste, curatrice paysage au CIVA, qui est un centre d'archives, de documentation et d'exposition à Bruxelles, qui nous présentera la revue Jola, dont elle est l'une des éditrices. Et enfin, Karen Chevalier, qui est architecte, paysagiste, urbaniste et qui travaille au CAUE de Lyon, qui nous présentera la revue Ban Public, dont on a déjà pas mal discuté et dont elle est l'une des chevilles ouvrières. Mais avant, nous voudrions quand même partager les réflexions de notre réseau sur le sujet. Donc vous avez tous eu l'occasion, j'espère, de voir la revue des revues et l'exposition qui sont dans le hall de l'école. Notre réseau a voulu commencer à établir donc un état des lieux, des publications essentiellement francophones, qui sont au moins partiellement dédiées à la critique de projets d'espace public. Ce premier état des lieux, qui, je le rappelle, n'est pas exhaustif, nous a permis donc de retenir 12 revues qui font apparaître des formes très variées de critiques de projets d'espace public. Donc je vais quand même les reciter, ces revues. Donc on a travaillé sur Espace Vert, Archivert, Le Visiteur, Page Paysage, Les Carnets du Paysage, Les Annales de la Recherche Urbaine, Jola, Archiscopie, Ban Public, Criticat, Projet de Paysage et Urbanisme. Alors, ce qui ressort de cet ensemble, c'est avant tout la diversité des approches, des tons employés, des formats, du statut donné à l'image, de la visée aussi de ces écrits. Donc, ce premier état des lieux commence à construire une sorte de boîte à outils qui nous semble précieuse pour imaginer la critique dont le projet d'espace public a aujourd'hui besoin. On a pu voir, par exemple, des articles très brefs, écrits à la première personne, où le corpus iconographique occupe une place importante, comme dans la revue Espace Vert, ou au contraire des articles avec une certaine qualité littéraire et une portée théorique qui dépasse le projet étudié, comme dans Criticat ou dans Jola. Souvent, ces articles prennent la forme de retours d'expérience, comme dans Le Visiteur ou Les Annales de la Recherche Urbaine. Ou alors, simplement, ce sont les concepteurs qui partagent des documents et qui les rendent publics pour que puisse s'exercer une critique, comme dans Archivert, avec les publications du concours du Sausset, par exemple, que vous verrez dans la revue des revues, ou encore dans la revue Page Paysage.
Donc en fait, à partir de ce premier état des lieux, on s'est interrogé ensuite sur les formes que peut prendre la critique. Les formes concrètes, c'est-à-dire vraiment quelle forme de texte, quelle place pour l'image. On a fait un groupe de travail sur images et critiques. On a poussé un petit peu plus loin. On a essayé de, en fait, à partir du constat qu'on n'arrivait pas à s'approcher des projets uniquement avec le texte, qu'il y avait une sorte de déficience un peu du discursif pour aller au plus proche des détails d'un projet. Voilà, on a souvent besoin du recours aux documents graphiques, à l'image, pour aller débusquer le diable qui se cache dans les détails. Donc on s'est demandé quel statut avait l'image dans les, dans la critique, en listant un peu ces différentes occurrences, donc l'image comme support de critique, donc toutes les images et les documents qu'on convoque pour critiquer, la critique par l'image, comment par la photographie, par les cartes, par le redessin du projet, etc. On peut critiquer par l'image. On s'est aussi interrogé sur la manière dont la critique travaille les images, les manipulations d'images, les rapprochements d'images, etc., etc. Pour conclure finalement sur l'intérêt d'un équilibre texte-image, les limites de l'image elle-même qui n'est pas autonome et qui ne peut pas non plus fonctionner seule. Donc voilà, c'est juste une parenthèse sur ce groupe de travail, mais on est arrivé à la conclusion que la critique, elle doit susciter un débat argumenté autour des projets qu'elle étudie, et pour ça, les médias qui l'accueillent en fait doivent permettre l'expression de ce débat et de droits de réponse successifs. Donc il y a bien sûr les revues, mais au-delà des revues numériques ou papier, il y a d'autres formes, la critique peut prendre d'autres formes. On l'a bien vu hier avec Yann Le Guy notamment, qui nous a bien expliqué comment la graphosphère s'est enchaînée sur la vidéosphère. Je ne sais pas s'il est encore là, Yann. Mais on a bien vu aussi comment il s'emparait effectivement des réseaux sociaux, etc., pour proposer d'autres formes de critique. Internet aujourd'hui peut nous offrir des cadres de diffusion puissants et peut-être plus attractif qu'une revue pour un large public et moins contraignant. Mais la démultiplication des contenus sur le web risque aussi de diluer la critique. C'est un peu les questions qu'on se posait. Donc il nous semblait pertinent de rechercher des formes de médiatisation qui composent avec des formes de diffusion différentes et complémentaires entre articles, newsletters, vidéos, etc. On pense par exemple aux conférences expériences de paysage organisées par la FFP, etc. Donc, de même, il nous semble que la diffusion de la critique gagnerait à être relayée par les structures professionnelles et institutionnelles susceptibles d'être intéressées par la critique, notamment la Fédération nationale des CAUE, la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, les agences de développement et d'urbanisme, et de façon peut-être un peu moins certaine, l'Association des paysagistes Conseil de l'État ou la FFP. Donc, c'est à réfléchir à ces différentes formes de la critique que nous vous invitons aujourd'hui à réfléchir, et aussi à sa diffusion. Donc, on va vous laisser la parole maintenant. On va commencer un peu par ordre chronologique, en fait, avec d'abord les cahiers de la recherche.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ces états généraux sur la critique, ce qui m'a vraiment amené à me repencher sur cette question de la critique, sur laquelle je m'étais penché il y a déjà plusieurs années. Et je dois dire que ces états généraux sont, enfin, je les trouve très stimulants et d'une densité quand même assez remarquable. Alors, donc là, on entame une table ronde sur la critique et les médias. Et cette table ronde, elle consiste donc à envisager la critique en relation à la publication, à la diffusion de la critique. Alors, l'état des lieux des revues et puis l'introduction à cette table a déjà posé un certain nombre de regards sur ce qu'est la publication. En tous les cas, dans ma réflexion, il ne s'agit pas de se pencher sur ce qu'est ou n'est pas la critique de projet, son apparition, son évolution, évolution dans divers contextes historiques et culturels, parce que ça a été déjà fait par plusieurs travaux qui ont fait date, et j'en cite deux ici, dont vous voyez des images. Le numéro de décembre 2009 des cahiers de la recherche architecturale et urbaine, qui était coordonné par Hélène Janière et Kenneth Frampton, qui fait vraiment un bon état des lieux sur la critique architecturale. Et puis un autre ouvrage publié aux éditions de la Villette qui s'intitule donc « La critique architecturale, questions, frontières, dessins », qui est issu d'un séminaire de recherche qui avait été mené à l'école de Nantes. Et au moment de la publication, l'ouvrage avait été enrichi d'exemples, de critiques. Alors, produite par des architectes concepteurs et puis aussi par des critiques, alors par des architectes concepteurs, à des moments divers de l'histoire, parce qu'il y a un article de Pierre Vago qui avait coordonné un numéro d'architecture d'aujourd'hui sur la critique architecturale. Il y a un article de Bernard Huette dont on a parlé hier, mais il y a aussi des académiques et comme Peter Collins. Enfin, et dans cet ouvrage a été republié aussi un article que j'avais commis en 1991 sur la critique architecturale. Et voilà, donc c'est, l'ouvrage est intéressant parce qu'il il fait état à la fois d'une réflexion qui s'était menée au moment de la publication, c'est-à-dire dans les années 2009-2010, mais en même temps, il rassemble toute une série de critiques qui font prendre conscience que la critique n'est pas constante et qu'elle est vraiment située historiquement et culturellement. Et d'autre part, elle est aussi attachée à des domaines. C'est-à-dire que ce que montre bien Hélène Janière dans son travail, c'est que la critique d'architecture, en fait, elle s'est inspirée de l'histoire de la critique d'art, et que l'une n'est pas l'autre. C'est-à-dire la critique d'art, c'est pas la critique d'architecture, mais il y a néanmoins des circulations, des contaminations d'un domaine à l'autre. Et de même, la critique littéraire peut permettre aussi de penser la critique architecturale. C'est un peu ce que j'avais tenté dans mon travail sur la critique, c'est-à-dire que je m'étais inspiré du travail de la réflexion théorique de Tsvetan Todorov sur la critique littéraire pour aller regarder la critique architecturale et essayer justement de mettre en relation une approche théorique, une approche qui déconstruit la conception avec un travail de jugement, avec une réflexion sur les valeurs, ce dont la critique s'occupe aussi. Donc, envisager la critique dans sa relation à la publication, ça suppose de ne pas la considérer comme une chose en soi, mais comme un produit d'acteur qui œuvre dans des médias. Alors, ces acteurs, ils sont rattachés. Ils ne parlent pas de. Ils parlent à partir de positions qu'ils occupent, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés à des organismes de formation, à des écoles supérieures, à des départements d'université, mais aussi à des structures professionnelles. On l'a vu hier avec Sébastien Marot. Le travail qu'il a mené au départ sur la critique avait pris forme au sein de la société, au sein de la SADG. Donc voilà, c'est tout à fait important de voir que la production critique, elle s'inscrit dans des cadres institutionnels et que les acteurs sont insérés dans ces cadres. Ils peuvent aussi s'en individualiser. Il y a aussi parmi, organisme professionnel, les groupes de presse, évidemment. Quand François Chalin écrit, il écrit dans Le Monde, Frédéric Edelman aussi. Donc c'est pas neutre d'écrire une critique dans Le Monde, ça impose un certain nombre de contraintes. Alors, il en découle un milieu humain relativement complexe. Et le milieu de la critique et celui de l'édition doivent être considérés conjointement. Ce sont des milieux qui se recoupent. Ce sont des milieux qui partagent des références culturelles, artistiques. Et les acteurs aussi partagent des codes, Alors, il faut aussi s'intéresser à la forme, bien sûr, de la publication, comme ça a été dit dans l'introduction, c'est-à-dire la mise en page, les stratégies graphiques, elles constituent une interface, et ça a un effet aussi sur le discours. La forme qui est revêtue par le médium pour véhiculer les contenus, pour s'adresser aux lecteurs, peuvent pas être dissociés finalement des contenus. Et ça, c'est ce que nous ont appris, par exemple, tous les travaux qui ont été menés sur la fabrication des discours, la fabrication des savoirs. Je pense à l'ouvrage de Christophe Charles sur la vie intellectuelle en France, où il nous montre que les discours doivent toujours être mis en relation avec les lieux où ils s'énoncent et avec les dispositifs qui en rendent possible l'énonciation. C'est-à-dire que quand on prononce un discours dans un cadre comme celui-ci, d'une conférence, eh ben, c'est pas la même chose que quand on donne une interview à un journaliste dans un contexte beaucoup plus individuel. Bon, alors après ces petites considérations qui en fait ont pour objectif de rattacher la critique au milieu dans lequel cette critique se produit. Je vais maintenant présenter la revue Les Cahiers de la Recherche Architecturale Urbaine et Paysagère, qui est une revue en ligne dont j'ai été rédacteur en chef pendant 6 ans, de 2016 à 2022. Et en fait, cette revue, elle est plus ancienne, elle a 40 ans d'existence, mais la formule dont j'ai été rédacteur en chef, c'est une formule en ligne, donc c'est une nouvelle formule. Cette revue, elle s'est engagée dans une politique internationale, une politique d'ouverture internationale, pardon, et elle assume aussi pleinement l'héritage, c'est-à-dire la mission d'origine qui avait été confiée au cahier de la recherche, qui consistait à diffuser la recherche développée dans les laboratoires des écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage. Alors, pas de paysage, parce qu'au moment où les cahiers ont été créés, dans les années 70, les écoles de paysage n'étaient pas... Il n'y avait pas d'école de paysage, d'abord. Et puis, c'est quand même assez récent, le rattachement des écoles de paysage aux écoles d'architecture. Sur cette revue... alors, la nouvelle formule... Je vais la présenter très rapidement, c'est-à-dire qu'elle publie... Ah oui, ce qui est important, c'est de dire que c'est une revue qui se positionne comme une revue de recherche et qui s'affirme comme telle. C'est-à-dire que ce n'est pas une revue d'architecture, ce n'est pas une revue professionnelle comme l'architecture d'aujourd'hui ou comme d'autres revues d'architecture. C'est une revue de recherche. Et donc, elle s'est structurée comme telle et donc elle s'organise autour de dossiers qui sont, et donc elle publie trois numéros, trois dossiers par an, qui sont dédiés à des questions vives de recherche, c'est-à-dire des questions qui sont débattues au sein du milieu de la recherche et puis qui sont débattues aussi au sein du comité de rédaction. L'ensemble des thématiques sont censées faire écho donc au sujet exploré par les chercheurs, mais ils sont aussi... censé proposer des nouvelles pistes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de refléter une recherche qui se fait, mais il s'agit aussi peut-être de la renouveler, de renouveler les problématiques. Donc, parallèlement au dossier, on a deux rubriques qui sont publiées au fil de l'eau. L'une qui est consacrée à l'actualité de la recherche, qui accueille des comptes rendus d'ouvrages, de thèses, d'habilitations, à diriger des recherches, mais aussi des articles issus de programmes de recherche. Et puis l'autre rubrique, matériaux de la recherche, qui présente finalement ce à partir de quoi s'élabore la recherche, donc les textes de référence, des entretiens, des carnets de recherche, des enquêtes. Donc c'est la dimension plus matérielle qui est accueillie dans ces rubriques. Alors... on a publié au sein de cette revue un dossier, le dossier 13, qui était consacré plus spécifiquement à la question des revues et de la recherche, parce qu'il nous a semblé important de mieux cerner justement ce qu'il en était des supports de la recherche dans, et notamment des revues. Alors, ça a donné lieu à ce numéro qui collecte donc des récits qui ont été en fait énoncés par les rédacteurs des revues. Par exemple, on a interrogé la revue Oase, qui est une revue néerlandaise, la revue Matière, qui est une revue suisse, Urbanistica, qui est la revue d'urbanisme. Enfin, qui est une revue d'urbanisme italienne, Jola. Enfin, on a interrogé une quinzaine de revues pour leur demander voilà, quelle place y tient la recherche, et puis aussi avoir des récits sur la façon dont ces revues étaient nées et d'où elles venaient. Et on s'est aperçu qu'il y avait des revues qui étaient nées du milieu de l'enseignement, la revue Oase, la revue Matière. Il y a des revues qui sont au contraire issues des milieux professionnels. La revue Urbanistica, c'est la revue de la Société des urbanistes italiens. Jola, qui est une revue portée par des institutions d'enseignement. Voilà. Donc, on a procédé par un questionnaire qui a cherché à éclairer aussi la façon dont ces revues étaient gérées, c'est-à-dire la gouvernance de la revue, la façon dont ces revues comprenaient le terme de recherche, le public, la programmation des articles, les stratégies qui consistent à sélectionner des experts et à évaluer les articles. Alors, sur cette question des articles, de l'évaluation, je dirais que c'est une question un peu clé parce que c'est, pour des articles de recherche, un format est défini à travers des procédures d'évaluation. C'est-à-dire que finalement, la façon dont on évalue des articles contribue aussi à leur donner un format et à les régler. Bon, vous connaissez tous le système du peer review, donc c'est que les articles dans le domaine de la recherche sont évalués par deux experts indépendants et dont on fait la synthèse. Et puis, c'est ces évaluations qui permettent d'améliorer l'écriture des articles et puis d'aller vers un article final. Alors, qu'est-ce qu'il en est du côté de la critique ? Est-ce que... c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des formats d'évaluation ? Est-ce que ce sont des formats équivalents à ceux de la recherche ? Je me suis posé la question, j'ai pas de réponse. La seule réponse que j'ai pu mobiliser rapidement pour aujourd'hui, c'est le fait que j'ai moi-même contribué à des expertises pour des articles de critique dans des revues, notamment Jola, mais pas uniquement. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, quels critères j'ai mis en œuvre, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai valorisé à travers l'expertise. Alors, pour être bref, je dirais que j'ai valoriser d'abord une information empirique, c'est-à-dire qu'un article de critique, ce qui m'a paru important, c'était que c'était un article qui apportait de l'information et une information qui était produite à travers la fréquentation d'un lieu présenté, et cette information, elle était complémentaire à une information plus abstraite, plus théorique, plus problématique, produite par une approche analytique. Donc pour moi, un article de critique, il est caractérisé par cette information empirique. Ensuite, cette information, si elle est empirique, elle ne résulte pas moins néanmoins d'une méthodologie explicite, c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur une documentation minutieuse. Alors concernant la critique de projet proprement dite, cette méthodologie s'appuie sur une documentation approfondie. Ok. Je vais aller plus vite. Alors, donc, s'appuie sur une documentation approfondie de la commande, de la conception, analyse du concours, description du projet, entretien avec les concepteurs, on en a parlé, mais aussi des controverses auxquelles cette critique de projet a donné lieu. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'après, c'est aussi important que l'analyse de la production même de la conception. Après, on attend d'un article critique qu'il fasse la démonstration qu'un projet apporte des réponses aux attentes contemporaines, notamment les questions de développement durable, de tournant écologique, de redéfinition de valeurs urbaines, comme la question de la centralité en matière de valeurs urbaines. Alors, je vais aller beaucoup plus vite. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail, mais voilà, les CROP, en fait, les cahiers de la recherche, ne produisent pas d'articles de critique. Mais je me suis dit, il y a quand même un type d'article qui s'approche de la critique, et c'est ce que des coordonnateurs du dossier consacré à la question de la ressource ont identifié comme des articles de terrain. Alors, ce sont des articles de terrain. Ce sont des articles que j'ai que je voulais examiner avec vous de manière un peu détaillée, mais on va le faire très très rapidement. C'est-à-dire que ce sont des articles, par exemple dans ce cas-là, qui exposent une situation, des articles qui proposent une enquête. Dans ce cas-là, c'est un article qui propose un retour d'expérience sur un chantier, donc qui met le chantier au centre de la réflexion. Et qui suggère de se pencher sur les potentialités de ce chantier. Dans cet article-là, c'est un article qui rassemble des exemples et puis qui rencontre d'un dispositif de production, d'un matériau utile pour développer la construction en terre sur un territoire. Donc c'est un compte-rendu de construction à travers les possibles, les blocages, la manière de les lever. Cet autre article lève le voile sur l'extraction du sable et il montre comment une ressource devient une valeur marchande dès lors qu'elle est insérée dans un système de production piloté par la promotion immobilière et donc soulève la question de comment ça pourrait en être autrement et en quoi ça contredit l'idée de la ressource comme bien commun. Bon, bref, là, ici, on a le cas d'un petit pavillon mais c'est une démarche de projet. Bon, là, c'est de l'ordre du témoignage. Alors, pour conclure, voilà, tous ces articles ont en commun une dimension empirique qui recourt à la description d'une situation, qui recourt au témoignage, qui recourt à l'enquête pour illustrer une problématique, pour proposer un exemple, pour donner à comprendre des notions, pour donner à comprendre des processus. Cet empirisme revendiqué s'appuie néanmoins sur une méthodologie rigoureuse. Il permet au lecteur de s'approprier des notions, des questionnements plus théoriques, des questionnements plus généraux qui, dans leur abstraction, ne feraient pas sens autrement. Donc il me semble qu'on rejoint ici des caractéristiques qui sont celles de la critique de projet, dont on attend qu'elle fasse la démonstration de ce qu'apporte un projet. Et cette critique de projet, elle ne procède pas donc d'un jugement subjectif, mais d'une démarche, assez sophistiquée, qui analyse la commande, qui analyse la conception à travers toutes ces étapes, qui analyse les controverses également. Je me suis dit, ces articles qui finalement sont des articles dits de terrain, est-ce que ça ne pourrait pas être des articles de critique? Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de finalement d'ouvrir une revue de recherche au domaine de la critique en partant de cette prémisse là? Voilà. Mais écoutez, je vous remercie et je suis désolé d'avoir été peut-être un peu long.
Bonjour, je remercie également les organisateurs et organisatrices de m'avoir invité à présenter la revue Jola. Ma présentation sera relativement brève, mais je tenterai donc balayer un peu les spécificités de la revue et les spécificités aussi de l'historique de la revue, sa raison d'être et la place ou non qui tient la critique, ou en tout cas la place qu'on a tenté de donner à la critique, et éventuellement aussi les difficultés qu'on rencontre par rapport à cette notion de critique, aussi en lien avec la notion de recherche. Je pense que c'est des thématiques qui ont été un petit peu abordées durant ces deux journées, et on va voir que, on va dire, à la micro-échelle de notre revue, c'est sans doute aussi un constat que l'on peut tirer dans les grandes lignes, en tout cas. Alors, la revue Jola a été créée en 2006. C'est la revue de l'ECLAS, European Council of Landscape Architecture Schools. C'est une revue scientifique soumise au peer review. Et c'est une revue qui est née notamment face au constat que la recherche dans le domaine de l'architecture, ou je me permets de dire architecture du paysage, puisque enfin, c'est le terme consacré au niveau international et c'est le nom de la revue, dans les formats, ou en tout cas dans les formules qui étaient proposées à l'époque, et qui le sont en partie encore, avaient du mal à percoler vers les praticiens. Donc on avait une espèce de... voilà, de fonctionnement un peu en parallèle entre le monde de la recherche et le monde de la pratique. Or, il semblait en partie urgent, justement, de intimement connecter ces deux mondes afin que les praticiens puissent bénéficier de la recherche. On a abordé aussi hier, enfin, voilà, comment est-ce que la critique finalement alimente le projet. Et voilà, mais j'expliciterai dans la foulée ces notions. Le constat était que les formats de publication dans le monde académique suivaient un modèle qui souvent correspond au modèle de ce qu'on appelle peut-être les sciences dures ou les sciences humaines, et qui sans doute en termes de présentation de médium n'était pas nécessairement adapté à un lectorat de paysagistes praticiens, où notamment la place du visuel, la place du récit visuel, mais aussi la place de l'analyse, voire de la critique visuelle, sont un élément essentiel, puisque ce sont des métiers non seulement du visuel, mais de la spatialité et de la conception. Donc la revue est publiée 3 fois par an, et voilà, son objectif principal est de stimuler la recherche et le débat dans le domaine de l'architecture du paysage, et elle encourage des méthodes de recherche non seulement classiques mais aussi expérimentales qui portent voilà, sur l'histoire, sur l'enseignement, sur la pratique au sens large. Donc on a parlé aussi du rattachement à des institutions. Voilà, il se trouve que l'ECLAS est une institution chapeau international qui regroupe toutes les écoles, une grande partie des écoles de paysage en Europe, et que donc le comité de rédaction, en conséquence, est constitué aussi d'une série de personnes émanant de ces institutions, ce qui contribue aussi, on va dire, un effet de regard croisé au sein même du comité de rédaction, puisqu'on sait bien que dans les différents pays, il existe aussi différentes cultures de la recherche, du projet, etc. Donc déjà, au sein du comité de rédaction, il y a des échanges en ce qui concerne les pratiques et la recherche dans les différents pays. La revue comporte 4 sections, une section relativement classique, dira-t-on, d'articles de recherche. Une section qui s'appelle Under the Sky et qui porte en principe précisément sur la critique de projets d'espace public, et dont Sonia Caraval est la rédactrice. Une section Thinking Eye qui explore justement des nouvelles méthodes de critique qui ne passent pas essentiellement par le texte, mais plutôt par l'image, où le texte sert de support à l'image, mais n'est pas l'aspect central du texte. Et enfin, une section reviews ou recensions, qui sont des recensions critiques de publications, que ce soit des livres ou d'autres types de publications, mais aussi de conférences et d'expositions, puisque l'exposition est aussi un mode de critique, d'analyse et surtout de médiation et de diffusion de savoirs liés au domaine du paysage. Alors voilà, comme je viens de le dire, nous avons des membres du comité de rédaction provenant, ici en l'occurrence, de Suède, de France, du Royaume-Uni et de Belgique, pour me citer. Et ceci est un exemple de numéro. Donc il s'agit du dernier numéro qui est sorti, qui porte justement sur les questions des forêts urbaines ou de l'urbanisme forestier. Enfin, on le nommera comme on veut, mais qui soulève bien sûr des thématiques tout à fait actuelles. Donc on a les numéros classiques qui sont le fruit de submissions, dans notre système centralisé, où on va collecter une série d'articles qui ne sont pas en lien avec une thématique particulière, et des numéros spéciaux qui seront dédiés à des thématiques spécifiques. Et ici, en l'occurrence, on avait des guest editors, donc un comité de rédaction invité qui a travaillé sous notre supervision pour créer ce numéro. Voilà, un constat qui s'est aussi fait par rapport aux articles de recherche classiques, c'est donc non seulement la forme qui est essentiellement textuelle, mais aussi la longueur. Donc à Jola, on encourage aussi des articles plus compacts. Dans le monde anglo-saxon, on parle toujours de mots et pas de signes. Donc, en tout cas. Et je montre simplement un exemple d'un article au sein de Jola, où on voit vraiment la place, on va dire, prépondérante de l'image, et aussi ce fonctionnement entre images et textes qui sont considérés comme un binôme et non pas comme un contenu textuel et puis une annexe illustrative qui serait les images. Donc les images font partie du discours et on encourage effectivement les auteurs à fonctionner de cette manière. Alors, je vais faire circuler quelques numéros dans la foulée, ce qui vous permettra de... Ah oui, 5 minutes. Non, c'est très bien, non, mais je ne serai pas très rapide. Donc on a la section Thinking Eye, comme le titre l'indique, il s'agit de stimuler la pensée par la réflexion visuelle et non seulement verbale, parce qu'on a beaucoup parlé de verbalité, d'articulation d'idées par le verbe. Ici l'hypothèse est que l'œil aussi analyse des formes de prise de vue, des formes de cadrage, mais aussi des formes de signes posés dans des paysages peuvent permettre des nouvelles lectures. Et on a aussi parlé des méthodes de critique dans divers domaines, que ce soit l'histoire de l'art, la littérature, les métiers de la conception. Et donc c'est une section qui encourage aussi de s'approprier ou en tout cas de passer par d'autres méthodes critiques provenant d'autres domaines pour essayer d'innover dans le domaine de la critique du paysage ou du projet de paysage. Alors voici un exemple de pondération d'un article de Thinking Eye. On a 11 pages au total, donc les pages en bas sont plus petites bien évidemment, mais sur les 11 pages, il y a 2 pages de texte, ça fait environ 500 mots, et nous avons 9 pages d'images, et où les légendes jouent aussi un rôle central. Donc il s'agit vraiment d'avoir un discours analytique et critique par le biais de l'image avant le texte. Alors, nous avons la section de critique de projet de paysage. Donc, je ne sais pas si je suis la plus apte à en parler aujourd'hui. En tout cas, il s'agit d'une section qui va pencher son regard sur des projets construits, mais aussi sur la question de l'avant, l'après, le projet, l'existant, et aussi tenter de faire la critique sur le long terme. Alors on va voir aussi que là, souvent on se heurte à des difficultés de susciter cette critique, que ce soit pour des questions de temps, je pense aussi, des auteurs. La critique sur le long terme implique aussi une visite, une revisite, une analyse qui ne se fasse pas sur le temps court. Ce n'est pas toujours possible. Ça dépend aussi de l'emplacement du site et d'autres facteurs, bien évidemment. Mais il s'agit aussi d'analyser la question du programme. On en a parlé aussi durant ces deux journées. Et la question de la maîtrise d'ouvrage. Donc on ne limite pas la lecture au seul projet tel qu'il a été réalisé, mais aussi l'historique de son émergence et le contexte de maîtrise d'ouvrage et du programme. Ici, le récit visuel est également un élément essentiel de l'article, et l'objectif est de contribuer à la théorie du projet de paysage. À nouveau, on voit que le but est vraiment d'alimenter la pratique, et non seulement de rester dans la théorie. Ici, on a aussi un exemple de mise en page de cette section. On voit bien aussi combien le rôle de l'image est important. Et donc on a un graphiste qui est très très attentif et très à l'écoute aussi. Donc on développe vraiment la mise en page en lien étroit avec notre graphiste afin que ce binôme texte-image soit le plus expressif possible et contribue à porter le récit et le discours. Je termine sur la section des recensions, dont je suis responsable. Donc, il s'agit véritablement de faire des recensions critiques de livres, et je dis ça avec une certaine emphase parce que on essaye de s'éloigner de l'idée de compte-rendu. Il ne s'agit pas simplement de rendre compte, comme le ferait peut-être plus aptement une quatrième de couverture, de vraiment encourager les auteurs à porter un regard critique, de contextualiser par rapport à d'autres publications dans le domaine et ou expositions ou conférences, et d'également critiquer les aspects communication visuelle, puisqu'on est dans un médium où, bien évidemment, le livre, l'image et le texte fonctionnent également comme un ensemble et non pas comme un contenu qui serait dissocié l'un de l'autre. Et si je peux très rapidement faire un retour là-dessus, je constate que c'est assez difficile de faire émerger cette critique, même si quelque part c'est les instructions de base que nous donnons à nos auteurs. Et je me pose aussi la question, si on est dans un monde académique du peer review, donc cette section-ci n'est pas peer reviewed, c'est moi-même qui en fait le review, pour ainsi dire, le review du review. Et je vois des grandes hésitations à vraiment énoncer des points de vue et mettre des points de critique, positionner des ouvrages ou des expositions dans un contexte plus large, en pointer les faiblesses ou les comparaisons par rapport à d'autres productions. Et je me pose la question, je vois ça surtout chez de jeunes auteurs, si la peur d'émettre une critique peut avoir des conséquences dommageables dans un parcours universitaire et académique où on sait que le publish or perish le fond de la question, et où on est face à une génération où finalement ce dictat, mais en tout cas cette obligation de publier et d'être évalué en permanence donne peur de l'évaluation, et même dans une section qui n'est pas évaluée suscite des hésitations à émettre ou à formuler des critiques. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour vous présenter les 10 ans de Banc Public, donc notre petite revue en ligne. Donc, il en a déjà été question. Hier, l'état d'esprit, le petit point, une critique bienveillante mais non complaisante a été largement discutée hier. Ça partait, question de constat, de l'absence d'une critique de projet d'espace public qui soit vraiment accessible aux maîtrises d'ouvrage, d'œuvres et d'usages. Et l'idée, c'était un billet très court, mais consistant, qui permette justement une appropriation d'un projet de manière très rapide. Et la règle, c'était aller sur le terrain, échanger avec quelques acteurs, analyser certains documents, proposer une lecture problématisée. Voilà, ça, c'était les règles du jeu. Comment s'est née cette histoire ? Décembre 2012, les prémices, Sabine et Denis, avec quelques autres, se réunissent. Et l'idée démarre là. Mars 2013, numéro 1, et vous voyez la mise en page assurée par Juliette Duchange, bravo. Une petite page à 3, facile à lire, qu'on reçoit par mail, qu'on peut imprimer ou lire en direct. Voilà, lu en 5 minutes. Bon, ça, c'est Denis qui le dit. Moi, je pense que je serai plus lente que ça. 5 ans après, le public se dit, on n'a pas trop d'auteurs, appel, donc le numéro 32 que vous avez là n'est pas un article critique, mais un appel à de nouveaux autrices, nouvelles autrices et nouveaux auteurs. On est quand même déjà à 1669 abonnés. Donc là, grand merci à Juliette encore qui assure par petit paquet de 50 l'envoi par mail à chacun des abonnés. Vous imaginez ça, après avoir fait déjà toute la mise en page, etc. à chaque fois. Les jalons plus récents, 2019, pour... arrêter ce supplice de Juliette chaque mois ou un peu moins selon les fois. On passe à la newsletter. Donc vous avez la première newsletter sur votre gauche qui permet déjà d'avoir un format un peu plus long, un peu mieux documenté, où les documents du coup sont plus grands, c'est plus lisible. Et puis 2021, ouverture à l'export. On part, quelques articles sont revisités pour être intégrés au carnet du paysage. Donc l'article numéro 45 part dans le numéro 38 du paysage. C'est Jacques Simon, agitateur du paysage. Et là-dessus, je suis dans mes jalons. Après, 10 ans après, finalement, vous voyez, c'est finalement assez stable en termes de nombre d'abonnés. On a 30 abonnés de plus. Mais comme dit Juliette, en même temps, à chaque fois, il y a quand même au niveau de la newsletter des archives. Et les archives sont relativement bien visitées. Et à chaque fois, à chaque mois, il y a quand même quelques nouveaux abonnés qui arrivent. Voilà. Mais toujours trop peu d'auteurs. Donc aujourd'hui, si on fait un bilan des 10 ans de banc public, c'est 60 articles. Donc vous voyez la répartition géographique. Je remercie Denis de m'avoir fourni la carte. Des lieux disséminés beaucoup au gré des déplacements de Denis, parce qu'en fait, c'était lui qui avait fourni un certain nombre d'articles d'avance. Vous voyez, en 2013, il avait déjà 3 ans d'articles d'avance. Heureusement, parce qu'on n'a pas été très, très prolixe, nous. Il y a plein de maîtrises d'ouvrages, d'œuvres, d'usages variés. C'est assez intéressant. Les sujets, j'ai été glanée un petit peu. Ça va et du micro-urbain, urbain, périurbain, rural, grand paysage, les infras, le littoral, le fluvial, etc. Donc ça permet un panel et un panel d'échelle aussi. Le plus petit que j'ai trouvé dans la liste des 60, c'était 2000 m2. Et puis ça va jusqu'à des grands plans paysages sur 175 km2. Je vous cite Denis parce que... j'ai eu la lourde tâche de faire ce résumé, mais du coup, j'ai demandé à tout le comité, oui, vous êtes gentil, mais dites-moi ce que vous auriez à dire. Donc, Denis a dit, effectivement, qu'il regrette quand même d'avoir été le gros fournisseur des articles. Il dit, presque unique, qui a entraîné le départ de Sabine pour qui Banque Publique était devenu le petit Dédé illustré. Donc, à son grand dame, il dit que ça lui a fendu le cœur que Sabine s'en aille, mais bon, voilà, c'est la vie. Mais par contre, il n'est pas triste du résultat final parce qu'il dit j'ai construit un mode opératoire assez bien rodé avec un classeur de projets, des visites systématiques, l'occasion d'un exercice régulier qui m'a permis de structurer et de mieux questionner ma pratique de la critique. Sans banc public, je n'aurais jamais écrit mon dernier livre, je n'aurais pas identifié les ponts entre les diverses pratiques paysagistes et je ne serais pas lancée dans l'aventure en cours du manifeste du projet de paysage. comme quoi tout a une utilité, y compris tout à fait personnelle. Donc je continue. Donc finalement, c'est qui ce banc public ? Donc on a parlé de Denis, de Juliette. Il y a Sonia que vous avez vue. Il y a Pauline que vous avez vue aussi. Alors Pauline, en fait, est avec Sonia à Paris. Il y a un petit bug dans ma... Et puis Juliette a déménagé dans la Drôme. Enfin voilà, donc mes petits points se sont un peu promenés. Il y a Marc Rumelard qui est notre super lecteur, relecteur de fond. Alors, comme dit Denis, s'il pouvait écrire autant d'articles qu'il écrit de critiques de mes articles, ce serait génial. Nous, on est, les autres, on est plutôt à faire de la relecture un peu plus superficielle et plus ciblée par rapport voilà, à ce qu'on peut pointer. Mais en tout cas, merci à toutes les vaillantes autrices et les vaillants auteurs qui sont cités en bas. Vous voyez quand même que sur 60 articles, Denis en a commis 42, soit seul, soit à plusieurs mains. Et merci à Sabine, merci aux uns et aux autres, à Hervé, etc., à tout cela. Donc là-dessus, je voudrais quand même citer, c'était Sonia qui disait « Le format du billet me semble un peu court. Je comprends l'intérêt vis-à-vis du lecteur, mais je trouve que ça ne rend pas honneur au long travail d'enquête que nécessite la critique. » Donc voilà, la frustration dont on a déjà parlé ce matin. À l'inverse, Juliette dit « Je crois que je n'arriverai pas à écrire un article. La rigueur que nécessite la critique de projet ne m'amuse pas beaucoup. Je dois bien l'admettre. En revanche, j'ai eu plusieurs projets d'articles, dont un sur des aménagements de parcs nationaux américains. Je ne sais pas. Un jour, peut-être. » Voilà. Et moi, je fais un peu partie de la catégorie de Juliette. Mais quand même, j'apprécie les joies de la critique et les joies du petit comité par mail. Hein, parce qu'en fait, Sonia, on se voit pour la première fois aujourd'hui. Voilà. voilà, c'est assez, assez drôle. Donc pour moi, quand même, la critique, ben, c'est surtout se questionner, s'émerveiller. Et puis c'est une super aventure humaine tous ensemble. Et donc je fais mon hommage personnel à Banc Public parce que c'est quand même... finalement, moi, je n'ai jamais écrit d'article. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en écrire un autre puisque je passe beaucoup de temps à faire plutôt ce genre de bêtises que je vais vous montrer tout de suite. Alors ça, c'est une pratique de l'espace public que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, chaque fois que j'arrive dans un lieu, si je suis inspirée par le lieu, je pose mon téléphone portable quelque part, je le stabilise contre un sac, contre n'importe quoi. Et voilà, ça donne lieu à ce genre de choses. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, la question du regard qu'on porte, c'est pour moi essentiel, finalement, sur cette question de la critique. Et ben aujourd'hui, c'est quelle perspective pour Banc Public ? C'est là notre grand questionnement interne. On n'est que 7, mais on aimerait bien potentiellement être plus. Donc, ça pose des questions de mode de diffusion. On en a beaucoup parlé là, ces deux jours. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que les états généraux peuvent apporter à cette question-là dans les relations possibles ? Comment on étend le vivier des autrices et des auteurs ? Qui a envie d'écrire pour Banc Public ? Ça, c'est un appel, un nouvel appel. Êtes-vous prêt à offrir votre regard à la critique ? Quelles autres formes aussi ? Marc Rumelard parlait de brèves de voisinage, plutôt pour les étudiants, en se disant, ben, tiens, en tant que futur concepteur, si j'allais voir les concepteurs auprès de chez moi, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Faire un truc moins fastidieux. Voilà, puis il y a aussi l'idée, peut-être, tiens, faire un peu comme le réseau, comme vous faites une visite par an, quelque part, faire la même chose. Pour voilà, développer des idées in situ. Et puis après aussi, peut-être inventer d'autres formes de critiques. Donc on a vu les mêmes de Yann hier. Et puis comment on peut associer effectivement les choses, comme on disait avec Denis. Moi, je ne fais pas vraiment de critique quand je vais danser les lieux, mais j'interroge les lieux. Et après, est-ce que cette interrogation peut être aussi support après à d'autres formes de critiques qui s'inscriraient dans d'autres images et d'autres mots ? Voilà, ça reste des questions. Je vous remercie.
Merci à nos trois intervenants. Est-ce que vous souhaitez réagir entre vous, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, ou on donne les questions à la salle ? Qu'est-ce que... À la salle. Alors, avec en ligne de mire, hein, cette question voilà, de la médiatisation, de la critique, quelle, bien sûr en réaction aux présentations qui ont été faites, mais d'essayer d'être un peu en prospective aussi, à l'image de ce que vient de dire Karen, quelle forme peut prendre la critique aujourd'hui et dans quels médias ?
Donc je vais dire quelque chose que j'ai, avec, dont j'ai parlé avec pas mal de collègues ici déjà. C'est y a une forme de critique qui existait quand j'ai commencé ce métier. C'était le projet manifeste. Et je milite toujours pour la possibilité du projet manifeste. Et en fait, je crois que c'est plus possible pour des tas de raisons qui se justifient sans doute. Mais en fait, je trouvais ça très intéressant parce que il y avait de la joie, je crois. C'est le terme de la critique et la joie vont ensemble, quoi. C'est-à-dire, il y a dans un projet manifeste, il y a une posture à un moment qui est libérée, qui est assez joyeuse, qui est assez rapide et qui permet en fait de porter un regard critique, soit sur un programme, soit sur une démarche, soit sur d'autres projets ou des contre-projets, mais qui en fait, moi, en tant que concepteur, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance de pouvoir le faire à un moment. Donc, je pense, en disant ça, je pense aux étudiants aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont ce champ libre de la critique Alors oui, un projet manifeste, c'est un projet en fait qui décide non pas de répondre au programme, mais de pointer un élément et le rendre visible de manière excessive. Enfin, j'en ai fait deux, moi. J'ai eu la chance à l'école de faire le projet manifeste du Trou des Halles à Paris, où en fait, avec la promotion, on avait fait donc un billard électronique, un billard électronique. Et puis, quand j'ai répondu au concours de la Villette, on savait que de toute façon, on n'avait aucune chance de gagner, puisqu'il y avait 700 candidats mondiaux. Et donc, on a fait, nous, on a marqué l'esprit, on a parlé de l'esprit du lieu. À la Villette, l'esprit des lieux, c'était les abattoirs. Donc, au lieu de faire un projet de parc, on a parlé de la mémoire des lieux et donc des abattoirs. Et en fait, ça a permis, effectivement, donc c'était absolument pas réalisable, mais ce n'était pas le problème. Ça permettait à un moment d'avoir une posture critique par rapport à une démarche en cours, en se disant, on balaye pas comme ça d'un revers de main toute l'histoire d'un quartier, parce que tout d'un coup, on fait un parc à la place d'un abattoir qui lui-même a été un énorme problème parce que ça a été une succession d'abattoirs qui ne fonctionnaient pas. Voilà, tout ça pour dire, je trouve ça dommage aujourd'hui qu'il n'y ait plus ce champ d'expression qui passait systématiquement par l'exposition après. Et donc on était sûr d'être entendu aussi. Parce que c'est la contrepartie du fait qu'on devait payer la possibilité de faire un concours. En contrepartie, on ne gagnait pas le concours, mais on était publié, soit par des revues publiques, pour le coup, là c'était Magazine Actuel qui avait publié pour le Trou des Halles, mais ça a été des grandes expositions aussi, et des revues de concours après ça, enfin des publications d'après-concours, qui étaient assez systématiques à ce moment-là, et qui donnaient la parole au projet manifeste, qui était donc une expression joyeuse de la critique, voilà.
Oui, ça rejoint ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. C'est d'une part le cadre normatif dont la pratique du paysage devient de plus en plus contraignant et en partie assommant. Et je pense que dans le monde académique, c'est un peu la même chose avec le peer review double et cette nécessité absolue de publier. Il y a une telle pression pour rentrer dans un cadre prédéfini très strict pour pouvoir justement accumuler le nombre de... Qu'effectivement, je pense qu'il y a une perte de spontanéité et de liberté qui est nécessaire à la critique. Donc c'est, l'espace mental n'est pas... d'emblée préparé à se dégager dans un monde qui est hyper cadré. Moi, c'est un petit peu mon analyse rapide, mais je... Voilà.
C'est sûr que les projets manifestes, ça apporte de l'air, ça apporte un regard frais, enfin, ça apporte beaucoup de choses. Mais comme tu le dis, l'important aussi, c'est qu'il soit relayé ensuite, c'est-à-dire qu'il donne lieu à publication ou alors qu'il soit exposé. C'est-à-dire que, voilà, et quelque part, ça montre aussi qu'une production critique, elle existe dans un univers qui est fait de multiples médias et qui s'articulent les uns avec les autres. Et c'est vrai... Ça me fait penser justement à des travaux qui ont été menés par les littéraires sur les petites revues littéraires du début du XXe siècle, où ils expliquaient que c'était des lieux, c'était des objets fantastiques, mais qui existaient aussi en relation avec des théâtres, en relation avec d'autres formes de diffusion de la culture. Et donc il faut essayer de saisir tout ça dans une espèce d'écologie générale, quoi. Et alors après, ça pose évidemment la question de l'existence de ces différents relais. Et voilà, s'ils n'existent pas, c'est compliqué. Et puis, par qui sont-ils financés, etc. Alors, sinon, pour la question des peer review, moi, c'est vrai que ça a quelque chose d'un peu contraignant, ça peut apparaître comme quelque chose de formatant, mais mon expérience de rédacteur en chef, où on a pratiqué de manière régulière ce peer review, c'est que quand même, ça apporte beaucoup d'extériorité à un comité de rédaction, et c'est quand même formidable d'avoir pour chaque... Enfin, ça aide à la fabrication des articles, et ça aide à les rendre plus pointus. Donc ça a une vraie vertu quand même du point de vue de l'amélioration des choses. Il ne faut pas le voir comme uniquement un dispositif qui viendrait sanctionner, dire oui c'est acceptable, non, c'est pas acceptable. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ces évaluations, elles ont aussi pour finalité d'aider à aller plus loin. De faire ressortir des choses qui n'ont pas été vues par l'auteur, enfin, etc. Donc ça a aussi une dimension positive. Et je crois que la qualité des articles qui sont publiés in fine, grâce à ce système de la double évaluation, bah, mon expérience, c'est que la qualité, ça fait monter la qualité, hein, c'est sûr.
Oui, je suis d'accord. C'est peut-être par rapport à la notion de critique que ça semble... Voilà, un peu inhiber les...
Bah, par rapport à la question de critique, tu as soulevé la question des relectures des articles critiques, c'est-à-dire qu'au sein même de votre revue, vous avez des relectures, donc ça joue peut-être un peu ce même rôle, non ?
Alors, je ne sais pas exactement, parce que je ne me suis jamais située dans une revue imprimée. Il faudrait plutôt poser la question à ceux qui sont dans les deux champs, toi, Denis, qui a connaissance des deux, plus ou moins, ou d'autres, tu vois. Toi, Sonia, sûrement, entre Jola et Ban Public, peut-être que c'est toi qui saurais répondre à ça, parce que...
Je pense qu'il y a une différence majeure, quand même. Enfin, c'est que les peer reviews, c'est censé être anonyme. Ça l'est. Là, nous, on est un petit groupe, on se connaît tous parfaitement. Et donc, voilà, c'est un travail de relecture, mais on sait qui dit quoi. Et au bout de 10 ans de travail ensemble, on sait un peu d'où il parle et pourquoi il dit ça, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas du tout le même fonctionnement.
Non, ça, je confirme, ça n'a rien à voir. Et c'est en fait assez difficile de trouver des relecteurs d'articles de critique. Il faut toujours bien expliquer ce qu'est un article de critique, la différence avec un article plus académique. C'est assez complexe. Et d'ailleurs, moi, je demande souvent à des membres du réseau de faire des reviews d'articles de critique, parce qu'il me semble qu'ils sont très bien placés. Il y avait une question là, et ensuite, Jacques.
Du coup, moi, je suis étudiant à l'école ici, toujours, et je me demandais si vous avez élargi votre champ aussi aux revues grand public, enfin, aux journaux, aux médias. Pour préciser, je m'intéresse beaucoup aux grands ensembles, et quand même, au fil des études, on se rend facilement compte qu'il y a eu quand même une image médiatique qui a été collée, et je m'intéresse aussi à comment cette image médiatique, elle influe sur le paysage quotidien. Où il y a quand même une image très négative qui a été circulée durant les années, même si aujourd'hui ça va. Et dans quelle mesure ça a influé sur les pratiques des habitants, mais aussi de l'image que des habitants extérieurs s'y faisaient, et d'une crainte un peu autour de ces quartiers
Bah écoutez, la réponse pour les revues plus grand public, c'est qu'en fait, non, on s'y est pas attelé, enfin, on n'a pas. Parce que c'est un travail énorme. Mais je vous renverrai, et puis c'est un travail qui est fait par ailleurs, donc je vous renverrai aux travaux de Valérie Devillard, qui enseigne à l'université Paris 2 et qui est vraiment, dont c'est la spécialité, ces questions de médiatisation. Donc elle avait enseigné à l'école d'architecture de Paris, La Villette, d'ailleurs, il y a fort longtemps. Mais après, elle est partie à l'Université de Paris 2. Et voilà, vous trouverez beaucoup de choses sur, voilà, sur ces questions d'analyse des médias et des médias grand public. Et notamment des thématiques liées à l'aménagement, alors peut-être pas au paysage, mais par exemple, je sais qu'elle avait beaucoup travaillé sur la façon dont ces revues grand public percevaient les quartiers et quel discours était produit sur les quartiers. Donc vous parliez des grands ensembles, peut-être qu'elle a travaillé aussi peut-être sur la question des grands ensembles.
Oui, bon, moi j'ai trouvé plutôt très intéressant tout ce qui a été dit, mais c'était presque à côté que je voulais répondre. Les raisons pour lesquelles on écrit ou qu'on n'écrit pas. Voilà. Parce que finalement, il y a des appels à l'écriture qui sont lancés de partout. Et moi, j'ai eu des appels auxquels j'ai répondu. Puis on m'a dit finalement qu'on ne voulait pas prendre le texte que j'avais écrit. C'était dans les carnets du paysage, il y a assez longtemps. Sans doute, il était très mal écrit. Sans doute, il disait des choses pas intéressantes. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, cette question-là. Et on se demande dans quelles limites cette critique ne devient pas simplement une censure liée à une orientation, liée aussi à un mode de communication, c'est-à-dire un type d'écriture qui passe ou qui ne passe pas. C'est toujours compliqué. Bon, j'ai pas de problème par rapport à ça. D'ailleurs, les carnets du paysage m'ont rappelé depuis et j'ai des articles qui vont sortir. C'est pas la question. Mais ce qui est important, c'est quand même de savoir que justement, il y a un formatage. Quand on parle d'un article classique, c'est quoi ? Par rapport à un article critique. Pour moi, tout article est porteur d'une critique d'une certaine manière et je ne vois pas ce que c'est qu'un article classique. Voilà, je n'ai pas fait assez d'études pour ça. Et puis, alors, il y a des choses où on est comme ça attiré et puis on ne passe pas, puis des choses où on n'est pas attiré. C'est vrai que moi, banc public, c'est un détail, hein, mais je suis très attaché à l'image. Le dessin du banc m'empêche totalement d'écrire dans cette revue. C'est le dessin est trop ringard. Je ne peux pas m'asseoir sur ce banc-là. Voilà. Donc il y a des choses comme ça importantes. Voilà, c'est tout.
Je m'interrogeais juste sur le modèle économique de vos revues. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager ? Comment est-ce qu'elles fonctionnent ? Et est-ce que vous observez une saisonnalité ? Des moments où vous avez beaucoup beaucoup de propositions d'articles ?
J'ai pas bien compris le... Bon, la question du modèle économique, j'ai compris, mais la saisonnalité, c'est-à-dire... Ah oui. Alors, le modèle économique, oui, c'est important. C'est très, très important. C'est-à-dire qui finance... parce que qui porte une revue, quoi ? Si elle est portée par un milieu académique, un département d'université, il va y avoir des exigences. Et notamment, justement, la question de la critique sera plus difficile à faire passer parce que le terme critique, la production critique, ne fait pas partie de ce qu'on attend d'un milieu académique, tout simplement. Donc, voilà. Après, il y a aussi effectivement les questions économiques, c'est-à-dire que les financeurs font pression pour que il y ait un lectorat fourni, que la revue soit vendue en suffisamment d'exemplaires, etc. Alors, bon, moi, je vais vous répondre sur les cahiers de la recherche, parce qu'en fait, voilà, c'est une revue qui a décidé de sortir des modèles économiques. C'est-à-dire, c'est une revue qui est en open access, c'est-à-dire que on y accède facilement. Tous les articles, on peut les lire en ligne, c'est sans avoir à payer, sans avoir à s'inscrire sur une plateforme quelconque. Et en fait, nos financeurs, c'est le ministère de la Culture, quoi. On est payé, c'est un financement public. Voilà. Et c'est un financement public en open access. Bon, après, la revue Jola, vous avez, ça fonctionne autrement. Voilà. Bon. Et puis alors, pour la saisonnalité, en fait, les revues, elles se donnent des rythmes de publication. Et on fabrique un numéro. Donc, ce qui est très important, c'est de respecter la régularité. Et du coup, nous, on a 3 numéros par an, ce qui est beaucoup. Et on fait en sorte qu'on lance des appels à articles Et le nombre d'appels à articles, il dépend le nombre de réponses, il dépend pas tant du moment où l'appel est lancé ou du moment où le numéro paraît. Il dépend plutôt du thème. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont porteurs et il y en a d'autres qui le sont moins, quoi. Donc il y a des thèmes sur lesquels on peut recevoir 19 articles, 20 articles, 20 propositions, quoi. Puis il y a des thèmes où on en reçoit 12 ou 10. Et puis, alors qu'en fait, un numéro est composé environ de 8 articles. Voilà. Après, je répondrai mais après à Jacques Coulon. Sur...
Brièvement sur Jola, le modèle économique ou pas? Oui, voilà. Donc, Jola est en partie financé par les classes, donc surtout tout ce qui est graphiste et relecture. Par contre, c'est l'une des revues, si pas la revue de paysage la plus lue au monde. Enfin, c'est ce que nous a dit notre rapport d'activité de la maison d'édition Taylor & Francis, qui, comme vous le savez, est une grande maison d'édition scientifique, d'où aussi la portée, qu'elle est téléchargée par 3000 institutions de par le monde et qu'on a eu, en 2022, me semble-t-il, 50 000 téléchargements d'articles. Donc on a la chance de bien fonctionner et d'avoir aussi un lectorat et aussi un nombre de contributions en courbe croissante, ce qui est aussi dû à sa diffusion au niveau international. Ça va des États-Unis jusqu'à la Chine, jusqu'à Singapour et bien sûr l'Europe. Donc on a... C'est une revue à très très large diffusion.
Oui, moi j'avais peut-être une question qui revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la critique et à la manière dont elle est peut-être plus contrainte aujourd'hui, puisque vos revues existent depuis un certain moment. Est-ce que vous observez justement, et puisque vous avez dit que la critique était justement située culturellement et historiquement, est-ce que vous observez une évolution de cette critique dans un sens ou dans un autre, plus ou moins engagée, plus ou moins, puisque vos revues existent, enfin, j'ai pas retenu pour lesquelles la recherche, mais il me semble que c'est assez ancien, et Jola depuis 2006, donc on peut imaginer peut-être avoir... Ok.
Pour documenter l'évolution des cahiers de la recherche, avec Gauthier Boll, on a commis un petit article dans une encyclopédie sur l'enseignement de l'architecture qui a été coordonnée par Marie-Jeanne Dumont et d'autres, qui est parue récemment. Alors, je ne sais pas quel est l'éditeur, mais on a fait un petit historique des 40 ans de publication de la revue en expliquant à la fois comment le format avait changé et aussi comment l'ancrage institutionnel aussi avait changé autour de ces 40 ans. Donc on voit apparaître des périodes. Et en fait, la revue, elle fonctionne complètement différemment d'une période à l'autre. Voilà. Et pour répondre alors à Jacques Coulon sur la manière dont on sélectionne des articles, enfin si on les retient ou pas, il y a des critères, quoi. Et ces critères... Et les critères, alors pour des articles de recherche, c'est relativement, enfin, c'est plus explicite que pour des articles dits de critique ou des articles de terrain. Mais j'ai essayé d'expliquer que, on se donne quand même des critères. C'est-à-dire qu'un article de terrain, il faut qu'il soit d'abord qu'il y ait quand même une méthodologie, c'est-à-dire que ce ne soit pas un pur jugement subjectif. Enfin, c'est pas une opinion qu'on recherche. C'est un propos susceptible d'éclairer une situation et de renseigner aussi et d'enrichir une problématique. Une approche plus... Bon, par exemple, le numéro sur la ressource, c'était la question de la ressource. Elle a été travaillée théoriquement par des chercheurs qui sont soit des historiens, soit des anthropologues, ou même des architectes, parce que les deux coordinateurs de numéro étaient architectes. C'était Xavier Guillot et Nicolas Fievé. Il faut que l'article apporte quelque chose à la thématique et qu'on ait l'impression que qu'il répond quand même à des critères méthodologiques et que il ait un intérêt et qu'on soit capable d'expliciter en quoi réside cet intérêt. Alors, il y a des articles qui arrivent qui peuvent être très bons, mais qui sont hors sujet. Alors, à ce moment-là, bon, on ne les prend pas, quoi. Ou alors, voilà. Alors, c'est compliqué après. C'est compliqué. Mais disons que ça se résonne quand même. Ça se résonne dans un comité de rédaction. C'est-à-dire qu'on discute longuement sur le pourquoi on retient ou on ne retient pas. Et tout le monde n'est pas d'accord. Donc les comités de rédaction, c'est quand même des lieux de débat, de discussion, y compris pour faire évoluer les regards qu'on a sur les choses. Et notamment, ces questions de formatage, ils sont mis en débat, quoi. Et donc, ça peut bouger, quoi. Ça peut bouger.
Il y a une dimension du sujet, je trouve, qui n'a pratiquement pas été abordée. C'est qu'on n'écrit pas de la critique pour soi, on écrit de la critique pour les autres. Et donc, on est typiquement dans un type de production où on écrit pour être lu. Et donc, c'est la question de la diffusion, en fait, qui se joue derrière. 50 000 téléchargements pour Jola, c'est formidable à l'échelle mondiale. Mais est-ce que tu as une idée de qui sont les personnes que la revue arrive à atteindre? Pareil pour les crops. En public, c'est la question qu'on s'est posée dès le départ. C'est une question qui s'est invitée dans les débats hier avec l'intervention de notre camarade dont le nom ne me revient plus, Yann Le Gouy. Voilà. Alors, il disait, dans le monde de l'hypercommunication, il faut réussir à être présent, il faut taper fort. Mais on le voit bien que ça. Alors, moi, je n'ai pas regardé de près, mais le risque, évidemment, c'est une espèce de dilution du message lui-même, quoi. Enfin, c'est difficile de tenir un propos qui aille au-delà de l'opinion et qui soit argumenté, comme le dit Frédéric, dans des formats comme cela. Mais peut-être que je me trompe. Le problème auquel on est confronté, c'est que la critique, on y a réfléchi au sein du réseau. Hein, par exemple, le rapport à l'image que Ursula a beaucoup évoqué, on pourrait se dire, bah tiens, si on fait une critique qui est plus visuelle que textuelle, peut-être qu'elle sera plus accessible, plus facile à diffuser. Sauf que ça a ses limites. Il y a un moment quand même où le texte est là. Et s'il n'y a pas ce fil conducteur, l'image reste de l'image, c'est-à-dire avec beaucoup d'implicites. Et c'est très difficile de tenir un propos construit avec beaucoup d'implicites. Donc, on se heurte à une difficulté qui est que, pour dire les choses de façon très généraliste et caricaturale, mais je pense en fait assez vrai, les gens ne lisent plus. Voilà. Les gens ne lisent plus. Non seulement les gens, mais même les gens qui sont censés lire ne lisent plus. Parce qu'ils n'ont plus le temps, ou ils ne le prennent plus. Hein. Et alors donc, quelle forme est-ce qu'on peut inventer? Quelle forme de critique? Parce qu'il faut vraiment raisonner dans ce sens-là. Enfin, moi, je pense qu'il faut penser, formater la critique en fonction de ces enjeux de diffusion, plutôt que l'inverse. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas d'écrire une critique dont je sais pertinemment qu'elle ne sera lue que par des gens comme moi. Quoi. Parce que pour moi, l'enjeu de la critique, c'est d'ouvrir ce qu'on fait sur la société. Donc, quel format est-ce qu'on peut imaginer compte tenu de ce que sont les canaux de diffusion et la capacité de lecture de la société civile aujourd'hui? À Banc Public, le pari, c'était celui de la quantité. C'était de dire, on va faire court, mais même court, c'est encore trop long, hein, on le voit très bien. Par contre, on va essayer de faire souvent. Voilà, que Banc Public, ça devient une espèce de truc qui s'affiche sur les écrans des gens tous les mois. On n'a pas réussi à tenir le rythme, mais c'était un peu ça l'idée. Et au moins, ça permettait d'installer l'idée dans l'esprit des gens que la critique d'espace public, la critique de projet d'espace public, oui, ça existe déjà. Le simple fait de voir que ça existe, que c'est produit, qu'il y a une espèce de régularité, met fin à une espèce de régime d'impunité dans lequel beaucoup de choses se font aujourd'hui et ne doivent plus se faire. Hein, parce que la situation est quand même assez dramatique, hein, il faut quand même en être conscient. Donc, voilà, moi, c'est la question que j'aurais aimé voir un peu traiter. En même temps, je suis conscient que il est 13h10 et que tout le monde a faim et que voilà. Voilà. Donc on peut faire comme tout à l'heure et garder juste ça comme question.
Enfin, moi j'aimerais bien répondre rapidement parce que c'est une vraie. Enfin, la question du public, c'est une vraie question et le mode d'accès à la production est aussi une vraie question. C'est-à-dire que quand on a monté la revue, quand on est passé d'une revue papier à une revue en ligne. ça fait tout basculer en matière de lectorat. C'est-à-dire que ce qu'on sait sur les revues en ligne, c'est que les lecteurs, ils accèdent aux articles, mais pas aux numéros. C'est-à-dire qu'en fait, on perd l'idée d'ensemble. Quand on fait un numéro pour essayer de faire le point sur un sujet ou pour le mettre en débat, etc. Et puis, il y a donc l'éditorial qui est porté par les coordinateurs qui essayent justement de rassembler toute une série de choses pour mettre en discussion. En fait, c'est pas lu du tout. Personne n'en a, enfin, tout le monde n'en a... Enfin, les lecteurs ne s'intéressent pas à ça. Ils accèdent aux articles par les auteurs, un par un, voilà, par des références. Voilà. Donc ça change complètement le mode d'accès. C'est la raison pour laquelle, au cahier, on a décidé de revenir au format papier, mais sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de publier une revue papier, donc on a fait un numéro papier qui rassemble justement tous les éditoriaux des dossiers. Et après, avec les systèmes de QR code, on renvoie au truc en ligne pour avoir accès à la complétude des dossiers. Donc on a inventé ce dispositif, on a passé un peu de temps, on a aussi trouvé de l'argent parce qu'il fallait financer ça. Mais voilà, ça a été notre réaction à cette question du lectorat et de la transformation imposée par le format en ligne, mais qui nous est aussi imposée par notre financeur, quoi. Donc voilà, donc la réponse à ta question, c'est soyons inventifs et réfléchissons, essayons de caractériser la situation, enfin voyons le problème. Essayons de trouver des moyens d'y répondre. Mais encore une fois, je reviens sur ce que disait François-Xavier Mousquet tout à l'heure, c'est que finalement, comme pour les projets manifestes, c'est un ensemble de dispositifs peut-être qu'il faut penser plutôt qu'une solution qui serait la bonne.
Les états généraux de la critique du projet d'espace public. Un podcast réalisé par Charlotte Mutel de l'association La Vitrine Itinérante.